Morning Business, le grand débat.
Et à 8h40, donc on retrouve Marc Fiorentino, Arnaud Marion et Bennaouda Abdedaïm. On était à Davos il y a un instant avec Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Ce qui est intéressant, on peut peut-être revenir cette semaine à Davos, Marc, c'est que, au fond, quand on leur pose des questions sur la conjoncture, sur l'inflation, au fond, c'est ça, ça les intéresse pas trop, parce qu'ils sont déjà sur le monde de demain, qui est un monde compliqué et fragmenté.
Oui, c'est ça qui est très intéressant. Et j'ai trouvé que c'était un tournant, ce Davos. Parce que c'était un Davos qui était pas... On s'attendait à ce qu'on parle aux taux d'intérêt, l'inflation, la guerre en Ukraine. Mais en fait, pas du tout. On est déjà, comme vous le dites, dans le monde d'après. C'est-à-dire de se dire comment, principalement, les trois premières puissances, les États-Unis, l'Europe et la Chine, vont vivre ensemble dans l'économie d'après. Après quoi ? Après le Covid ? Après la guerre en Ukraine, c'est-à-dire des périodes où on s'est aperçu qu'il fallait devenir indépendant, d'une certaine façon, en tout cas beaucoup plus autonome. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est remis en cause, c'est évidemment, alors on va avoir des grands débats sur la fin de la mondialisation, évidemment qu'il n'y a pas de fin de mondialisation. Par contre, ce qui est certain, et ce qui a beaucoup changé, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne fait semblant de vouloir jouer au jeu de l'OMC. C'est-à-dire que la Chine, on sait qu'elle est de mauvaise foi. Bon, on sait que la Chine est l'ennemi. Les États-Unis, qui étaient un peu notre allié, avec le
l'Iran,
plan, ouais. L'Ira, on l'a vu, ça y est, c'est fini, les masses sont tombées. Aujourd'hui, ils roulent pour eux, la Chine roule pour elle. Et aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est à quel point ça va devenir le sujet, parce que l'économie d'après, après le Covid, après la guerre en Ukraine, c'est ça, c'est-à-dire à quoi va ressembler le monde. Alors, il y aura toujours la mondialisation, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière, et ça sera une mondialisation un peu comme on a l'équilibre de la terreur, on a l'équilibre de la terreur économique, c'est-à-dire on sait que chacun peut faire tomber l'autre, ouais. Mais personne ne va utiliser l'arme nucléaire. Seulement, on va avoir des réflexions qui sont des réflexions importantes, et moi, mon inquiétude, évidemment, toujours la même, c'est la place de l'Europe là-dessus, parce que le jeu des États-Unis est clair, le jeu de la Chine est clair. Et
nous, on n'est pas clair.
On n'est pas clair, comme Bennaouda le répète souvent, et je vais lui passer la parole. L'Europe, c'est pas un tout pour l'instant. Ouais.
Mais Bennaouda, justement, vous l'avez dit, Ursula von der Leyen semblait dire que l'ennemi, c'est plutôt la Chine que les États-Unis. Et là, Bruno Le Maire vient nous dire, faut faire attention à l'Ira quand même, on est en train de tondre la laine sur le dos. Il faut quand même se protéger aussi des Américains.
Oui, tout à fait. Il y a tellement de sons de cloche qu'on a du mal à trouver une ligne directrice. On a vu, lors de ce forum de Davos, la ministre du Commerce et de l'Industrie des Pays-Bas, qui est quelqu'un de très intéressant du point de vue de la défense des intérêts européens dans les semi-conducteurs, s'exprimer et soulever la nécessité d'une souveraineté européenne dans ce domaine, sachant que les Pays-Bas ont ASML, qui est un équipementier fondamental dans les chaînes d'approvisionnement mondiales dans ce domaine-là. Effectivement, la présidente de la Commission européenne qui, mardi, dit il faut intégrer, mutualiser nos incitations en termes de subventions vertes. Et puis, et je vous invite à lire un papier dans le Financial Times qui est frappant, non, même pas de volonté de s'opposer à l'Union européenne, mais même de total désintérêt. On voit un gérant de hedge fund américain dire qu'à Davos il tombait des nues de voir que les Européens n'étaient pas contents à ce point de cette loi sur la réduction sur l'inflation. Alors soit il ne lit pas les journaux, soit il prend les Européens pour des idiots, mais ça peut être les deux aussi. Ouais. Mais il y a aussi une question de troupes. C'est frappant, à Davos, le seul chef d'État ou de gouvernement de poids qui soit déplacé du côté de l'Europe, c'est Olaf Scholz. Alors que vous regardez les troupes américaines, de nombreux gouverneurs, de nombreux PDG, de nombreux membres du Congrès qui sont venus défendre la nécessité de venir, grâce à cette loi, investir aux États-Unis. Et de ce point de vue-là, il y a une forme de désunion des Européens lors de ce forum.
On n'arrive pas à faire la liste de nos force et à dire c'est là où il faut mettre vraiment des points d'attention.
Je pense que la bonne nouvelle quand même dans tout ça, et pour rebondir sur ce que vous dites, c'est qu'on sait qui sont les ennemis ou les faux alliés. C'est-à-dire que la bonne nouvelle quand même, je trouve moi, c'est qu'aujourd'hui, alors l'Europe est en train de sortir, elle n'est pas unie, elle n'a pas de réponse unie, mais en tout cas elle est sortie de la naïveté. Le fait quand même de s'opposer aux États-Unis, même verbalement, de réagir à l'IRA, bon, c'est déjà une avancée.
Alors Arnaud Marion, on parle de la fin du monde, là on va parler un peu de la fin du mois, parce qu'il y a des salariés qui sont concernés. Gosport, les 2100 salariés vont peut-être être licenciés à terme. On a le dossier Orpea aussi, où on parle maintenant de mise sur surveillance financière et peut-être aussi d'arrêt de l'activité. Il faut gérer aussi le court terme, ils sont bien gentils à Davos, parfois on a des dossiers sous les bras. Hein.
Bon, les raisons sont un peu différentes.
Ouais, mais bon.
Gosport, je dirais à la limite, vous savez, l'expression se mettre sous la protection du tribunal de commerce n'a jamais eu autant de sens. Je pense qu'il y a eu une excellente décision hier. On ne sait pas si ça va pouvoir durer, mais en tout cas, seule la holding Gosport, groupe Gosport, a été mise en redressement judiciaire.
Protection des actionnaires. En protection de l'influence des actionnaires.
Oui,
apparemment,
exactement.
C'est-à-dire avec une procédure aussi d'ABS.
Ah ben c'est justement pour ça, en fait. Le tribunal de commerce a pris la main par rapport à ce qu'a lancé le parquet quelques jours avant. Le fond du sujet, quand même, à mon avis, c'est le premier jour de la fin de l'aventure retail de Michel Ohayon.
Ça,
je pense que c'est assez certain. Très Camailleux, et puis Gosport maintenant, et puis il y a des rumeurs de marché sur les autres enseignes qu'il a prises.
Bah, Gap, il l'a refilé, c'est peut-être là le bouillet de l'ABS, hein. Il l'a revendu à
acheter 1 euro, revendu 36 millions pour combler un compte courant débiteur. Donc le fond du sujet, c'est quand même qu'il y a une connexion entre les 18 millions et les 36 millions de remontées qui auraient servi, faut être prudent, à Camailleux notamment pour 18 millions. Et ça correspond pile poil au montant des PGE. Qui ont été accordés à Gosport, qui, quand il a été repris un an auparavant pour 1 euro avec un prix négatif, avec 80 millions de trésorerie au groupe de Jean-Charles Naouri, d'abord Gosport était déjà mal en point.
Mais comment vous voyez ça, vous qui êtes spécialiste des restructurations, vous dites qu'il fallait arrêter les frais sur Gosport, il faut arrêter là, ça suffit?
Oui, je crois qu'à un moment, regardez dans les enseignes retail, et notamment l'habillement. Je vais vous étonner, mais les trois premières positions ne sont pas des enseignes de mode. C'est Intersport, Decathlon, Centre Leclerc. La première enseigne retail qui vient après, c'est Kiabi. Donc déjà, vous voyez qu'il y a Intersport et Decathlon qui sont en numéro 1. Gosport, si vous voulez, ils ont un problème de positionnement depuis toujours. Moi, j'avais été interrogé sur Gosport il y a 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Et déjà, il y avait un problème de stratégie parce que le groupe Casino Rally ne mettait pas d'argent dedans. Donc, c'était déjà un malade qui a été repris pour 1 euro. Et de toute façon, une entreprise, quand vous la reprenez, si vous investissez pas dedans, ça peut pas marcher. C'est pas durable.
Un mot quand même sur Orpea. Ouais. On pensait qu'il y aurait un accord avec les créanciers, la Caisse des dépôts. Finalement, qu'est-ce qui va se passer?
En fait, il y a plusieurs sujets sur Orpea et ça a échappé. Moi, je regarde tous les dossiers activistes et je me suis amusé à regarder ce dossier depuis le mois de novembre. Il y a déjà quelque chose qu'il faut redire, c'est qu'il y a eu une succession de deux procédures de conciliation à 3 mois d'intervalle. Sur une entreprise cotée de cette taille et qui a à peu près 9 milliards de dettes, c'est extrêmement rare puisque globalement, pour sortir d'une procédure de conciliation, il faut pouvoir prouver sa pérennité et pouvoir dire non mais ça y est, je peux financer mon activité future. Cette procédure de conciliation n'avait pas concerné tous les créanciers mais uniquement les créanciers bancaires. 3 mois après, il faut quand même savoir que c'est à la demande de l'AMF que le cours est suspendu. Ça, c'est déjà une grande rareté. Et qu'à la hâte, on dit à Orpea, vous êtes obligé de parler au marché.
Ça veut dire quoi tout ça?
Ça veut dire que Orpea essayait finalement déjà de renégocier le reste de sa dette, alors que quelques jours avant, Laurent Guyot avait dit dans la presse « Non, non, on va pas du tout restructurer notre dette, c'est pas du tout le moment. » Mais en fait, il y avait quand même des discussions en parallèle. Vous savez que c'est une société cotée, il faut informer le marché. Donc là, déjà, il y a un problème. Il y a aujourd'hui une décision...
C'est un problème de marché, donc, là, manifestement.
C'est un problème de marché. C'est-à-dire, c'est l'AMF, c'est extrêmement rare que la... Enfin, Marc, qui connaît bien les sociétés cotées, une suspension de cours à la demande de l'AMF, c'est quand même quelque chose...
Est-ce que c'est à la demande de la Caisse des dépôts? Est-ce que tout ça...
Non.
Là, c'est vraiment la demande de l'autorité des marchés financiers qui a considéré qu'il y avait un moment où il fallait faire la clarté vis-à-vis des actionnaires.
Bon, c'est un dossier pourri. Qu'est-ce que ça va finir comment, ça?
Non, mais le fait qu'il y ait des discussions avec la Caisse des dépôts, c'est une bonne chose en soi.
À l'argent de l'État, mais c'est toujours une bonne chose.
En fait, il y a aussi des actionnaires.
Oui, la question, c'est celle des actionnaires. Bah, c'est-à-dire que si on rase gratis tous les actionnaires, il y a quand même un impact après sur le marché, sur le financement.
Le problème, là, ils sont mis à dos et les actionnaires
et les créanciers.
C'est quand même extrêmement rare dans ce genre de dossier de restructuration où généralement les créanciers l'emportent parce qu'ils ont créé différentes catégories de créanciers et les actionnaires finalement ils ont quelque chose qu'on appelle un droit préférentiel de souscription. Donc la vraie question c'est pourquoi on ne demande pas cette augmentation de capital en priorité aux actionnaires. Mmh. C'est ça qui aujourd'hui est en train de crisper. Et deuxièmement, la Caisse des dépôts considère que la société n'a plus de valeur, ne vaut pas plus d'un milliard et par conséquent veut racheter la dette non sécurisée à 26%, pas plus.
Allez, on dit un mot quand même de la réforme des retraites parce qu'il y a eu cette mobilisation importante, hein, et cette deuxième journée au 31 janvier. Bruno Le Maire nous a dit très clairement, on peut tout négocier, les amendements lors du Parlement et tout, tout sauf 64 ans, âge de départ, et 43 ans, nombre d'annuités minimales.
Une grosse borne.
On se demande quand même comment on va s'en sortir. En fait, la clé de voûte, on l'a tous compris, hein, c'est Laurent Berger. Donc la clé de voûte, c'est la CFDT.
Mais lui, il a dit c'était
à partir du moment où lui, ils sont les deux dans des postures qui sont des postures qui sont
irréconciliables.
On se retrouve dans une situation qui, alors là, on retombe sur un peu les sociétés, le retail.
Ah, c'est Pierre Corpéa, c'est ça.
Et l'économie, on se dit notamment pour les commerçants, pour tout ça, on se dit qu'on est parti pour une série de grèves et que le 31 janvier, ça sera le début d'une longue série. C'est quand même assez. Alors, ce qui est intéressant d'un point de vue, moi, je regarde ça d'un point de vue un peu macro, c'est que malheureusement, même si on avait beaucoup de grèves, ça aurait très peu d'impact sur la croissance. Mmh. Je dis malheureusement parce que c'est vrai qu'il y aura des petits commerçants et des PME qui vont souffrir, mais à l'échelle de l'économie globale, ça se verra pas, ça sera le trait de crayon. Mais on rentre dans un cycle qui me semble être un cycle où chacun a pris une posture d'opposition franche.
Peut-être Benaouda un mot sur cette étude que vous avez révélée ce matin, qui est absolument incroyable, sur la retraite de Russie, qui n'en est pas une. Seuls 8 à 9% des entreprises européennes ont baissé le rideau, sont parties de Russie. Toutes les autres sont restées.
Oui, tout à fait. Est-ce que c'est une étude qui a été, qui est prépubliée, une étude académique de deux universitaires suisses, qui établit qu'en fait, on est à seulement 8,5% de sociétés qui ont soit liquidé, soit tout simplement céder leurs actifs.
Ouais.
De ce point de vue-là, il y a quand même une contradiction flagrante entre le discours politique de la part des Européens et du G7 au sens large, et puis aussi une prise au sérieux, somme toute, des Russes, de cette idée que vous êtes dans le discours, dans la projection vis-à-vis des ONG et des médias, mais que vous ne mettez pas vos principes en application.
Mais ça doit les contenter, les Russes, non ou pas ?
Alors, d'un côté, ça leur permet de mettre en porte-à-faux le modèle occidental. Mmh. Mais en même temps, et on le voit dans des commentaires dans la presse russe et de parlementaires russes, il ne faut pas pousser trop loin.
L'hypocrisie.
Et exactement. Et il faut aussi garder ces entreprises-là, que ce soit Danone, les groupes industriels ou les laboratoires pharmaceutiques, pour faire tourner la machine russe aussi.
Et la boucle est bouclée, parce qu'on voit quelque part, par rapport à ce qu'on disait au démarrage, qu'il y a un désalignement en fait réel des intérêts européens par rapport aux intérêts américains. C'est-à-dire que pour une fois, alors est-ce que c'est bien ou pas bien, je n'ai pas un jugement de valeur, mais les Européens n'ont pas suivi de diktat américain.
Il faut pas beaucoup mieux les Américains, les entreprises américaines.
Oui, alors ils sont quand même... 18%.
C'est 18%.
Ouais. Donc
il reste 80% quand même.
Oui, 18%.
Bon. Allez, il y a deux événements exceptionnels ce soir.
Attendez, commencez par c'est votre argent pour évacuer. C'est parti de ça.
Il y a deux événements exceptionnels. Le premier, c'est votre argent.
Et
à 20h, mais il ne faut pas oublier surtout les replays, les podcasts,
c'est important absolument, ça se consomme toute la journée. Et puis nouveau rendez-vous sur l'antenne de BFM Business et en vertical, on accélère sur le luxe. Audrey Maubert nous a rejoint, nouvelle émission ce soir.
Exactement, mais on va utiliser la rampe de lancement qui est C'est votre argent. À 20h, on sera bien installé. À 21h, on enchaîne avec Iconic Business, tout un univers autour du luxe. On parlera du savoir-faire, de la stratégie, des maisons de luxe notamment. Et toutes les infos, toute l'actualité du secteur du luxe, en fait, tout ce qui va vous permettre d'avoir envie de dépenser votre argent, l'argent que vous avez.
Mais en fait, Marc est complètement dans la cible. On va parler de résidence secondaire de luxe, on va parler de placement, on va parler de montres,
Il pourra devenir notre testeur, on va parler d'immobilier, parler d'hôtellerie, on commencera avec le Royal Monceau et les voitures de collection aussi.
Bon, c'est vrai que cette verticale, on la décline non seulement dans cette émission, tous les vendredis à 21h, largement évidemment, comme pour C'est votre argent, visible sur les replays.
Il ne faut pas oublier.